Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Brisé, soyez guéris et restaurés, captifs, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Et le Autant d'une nuit de joie au lieu du cœur, un vêtement de gourmand au lieu d'un défi abattu. Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Le Seigneur appellera terrain de la justice, une tentation de l'éternel pour servir à sa gloire. Le Seigneur m'a vint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a revêtu de son
esprit. Alléluia.
Le Seigneur. De son esprit, le Seigneur m'a vint pour annoncer sa bonne nouvelle. Il m'a revêtu de son esprit.
Il est ma paix.
Il est ma paix.
Gloire au Seigneur Jésus.
Alléluia.
Il est bon d'être dans sa présence. Il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels à sa droite. Gloire à son saint nom. Jamais nous ne le louerons assez. Jamais. Quand nous réalisons que tout est grâce de sa part, n'est-ce pas vrai? Tout est grâce. Nous ne méritons rien. Bien souvent, nous prenons la gloire de Dieu pour nous alors que nous n'avons rien du tout. Tout ce que nous avons, santé, richesse, maison, et tout ce que nous avons vient de lui. Vient de lui. Et nous rappeler de ces choses est c'est toujours là pour nous un renouvellement dans notre reconnaissance, dans notre amour pour lui et dans une gratitude toujours plus renouvelée, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Que son nom soit béni éternellement. Alléluia. Nous l'avons béni et il veut aussi nous bénir maintenant. Il nous a laissé sa parole pour nous enseigner ses voies. Dans un monde de ténèbres, il n'y a que la parole de Dieu qui est là pour nous éclairer et nous montrer comment vivre avec lui. Que son nom soit béni. Ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble quelques pensées importantes, mais tout spécialement quelques mots importants. J'allais dire, il y a des mots qui sont miraculeux lorsque nous en comprenons le sens. Il y a des mots qui guérissent. Il y a des mots qui consolent. Il y a des mots qui relèvent. Il y a des mots qui font des miracles. Il y a des mots qui régénèrent. Il y a des mots qui transforment des vies. Ces mots-là, Dieu veut que nous les prononcions. Et j'aimerais vous en donner 8 ce matin. 8 mots qui guérissent. 8 mots miraculeux qui peuvent transformer notre vie spirituelle, qui peuvent transformer aussi nos foyers et qui peuvent transformer aussi l'Église. 8 mots qui guérissent. La parole de Dieu nous donne ces mots-là. J'aimerais qu'on les voit ensemble maintenant. Et vous réaliserez, il y a des choses très importantes. Et bien souvent, ces mots-là sont tout simples. Nous pensons qu'ils sont bien loin de nous, mais ils sont tout simples. Tout ce qui est grand est simple aussi. Et c'est bien souvent à cause de la simplicité de ces mots que nous passons à côté des grâces de Dieu, des guérisons que le Seigneur veut nous donner, des bénédictions qu'il voudrait nous donner. Des mots tout simples, mais qui ont une puissance et une portée extraordinaire. Le premier mot miraculeux que nous devons constamment avoir dans notre bouche, c'est le mot « Alléluia ». Comme je l'ai dit bien souvent, nous devons être des chrétiens. Alléluia. Le mot Alléluia, c'est le mot qui devrait continuellement jaillir de notre bouche. Vous savez, avant, et peut-être vous-même vous en avez fait l'expérience, avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, donc j'étais chrétien, né de nouveau, mais avant d'expérimenter cette grâce du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue et tout cela, et je ne comprenais pas les chrétiens qui continuellement disaient « Alléluia ». Et moi-même, j'avais une drôle de réaction, parce que dans le milieu où nous étions, on ne disait surtout pas « Alléluia ». Vous vous rendez compte? Dans une église, ne pas dire « Alléluia », c'est le comble. J'admets que dans le monde, on ne dise pas « Alléluia ». Mais que dans une église, on n'ait pas la liberté de dire « Alléluia », mais dans l'église où j'étais avant, c'était ça. Et quand j'entendais, non pas dans l'église, mais en dehors, dans une autre église ou un autre chrétien qui disait « Alléluia », ma réaction était celle-ci. « Oh, c'est un petit orgueilleux. Il dit ça pour se montrer. Alléluia, gloire à Dieu. » Voyez-vous, c'était drôle la réaction. Et comme si on ne devait pas exprimer sa foi. Comme si il y avait une certaine gêne à dire ces choses. Alors que finalement, c'est un mot extraordinaire, Alléluia. Alléluia veut dire, vous le savez comme moi, gloire à Dieu, louer l'Éternel, gloire à Dieu. Et C'est ainsi que je voyais les gens qui s'exprimaient librement, jusqu'au jour où j'ai compris que lorsque moi-même j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, alors les louanges et les alléluia, on n'avait plus besoin de me forcer à les dire, ça sort tout seul, n'est-ce pas vrai? C'est là une dimension, quand le Saint-Esprit vient en nous dans une dimension de puissante, la réaction normale en nous est de crier Alléluia. Vous savez, Alléluia et l'action du Saint-Esprit sont tous les deux liés ensemble. Et nous avons besoin, bien sûr, du Saint-Esprit qui nous aide à crier Alléluia. Mais une fois que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne sentons pas toujours la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Alors comment faire pour expérimenter cette présence? Eh bien, il faut crier Alléluia. Du fond de son cœur, je vous assure, c'est là une clé. Et bien souvent, combien de chrétiens, même baptisés dans le Saint-Esprit, et qui ont les grâces de Dieu, qui ont aussi les dons spirituels, n'expérimentent plus la présence de Dieu. La présence de Dieu, pourquoi? Si nous cherchons une simple raison, c'est que bien souvent cette personne-là, ce chrétien-là, n'exprime pas librement sa louange et son Alléluia au Seigneur. C'est là un manquement. Et parce que le chrétien ne fait pas cela, alors il est comme, j'allais dire, il ne ressent plus la présence de Dieu comme il le voudrait. Car laissez-moi vous dire une chose, si nous sommes des chrétiens, alléluia, et nous devons l'être mes amis, ceci est très important. Quand nous louons le Seigneur, je le dis et je le répète, la louange c'est vraiment, amène la présence de Dieu. Quand nous louons, il y a quelque chose qui se passe, qui réjouit le cœur de Dieu. Quand nous louons, quand nous disons « Alléluia, gloire à ton nom », nous touchons le cœur de Dieu. Et cela, nous ne le réalisons pas assez. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons l'habitude de le louer, de glorifier son nom et de le bénir de tout notre cœur, il y a une réponse de la part du Seigneur. Vous savez, l'amour, c'est cela, c'est dire à Dieu qu'il nous aime, et lui aussi nous dit qu'il nous aime, n'est-ce pas vrai? Il nous dit qu'il nous aime, et nous lui disons que nous l'aimons. Alors, il faut que nous soyons ces chrétiens, alléluia. Ces chrétiens, alléluia. Vous savez, je m'imagine maintenant les chrétiens, vous savez, dans certaines églises qui ne savent pas dire alléluia, la surprise qu'ils vont avoir lorsqu'ils seront au ciel. Quelle surprise, parce que là-haut, il n'y a que ça. Et je vous assure, ils devront aller à l'école là-haut. Les anges devront les enseigner à louer et à chanter Alléluia. Les anges vont comme dire, écoutez, je vois que vous êtes complètement choqués là. Il faut que vous alliez dans une classe de louanges et d'adoration. Vous savez que quand on sera au ciel, les choses ne changent pas comme ça subitement. Ce que nous avons été là, il y a des choses qui sont là et c'est pour et qui restent. Ça, on change pas magiquement là-bas. C'est au petit à petit, au fur et à mesure que on se soumet à l'action du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu nous transforme à son image. Mais il n'y a rien qui se fait comme ça, j'allais dire, instantanément. C'est pourquoi il est bon de se préparer dès maintenant à être ce chrétien, alléluia. Et lorsque nous entrerons dans la présence de Dieu, là-haut, nous ne serons pas déçus, nous ne serons pas surpris. Mais au contraire, nous pourrons l'exalter de tout notre cœur parce que nous l'avons déjà fait ici-bas. Amen. Alléluia. Parce que nous l'avons fait ici-bas. Et vous savez, dans la mesure où nous sommes ces chrétiens, alléluia, alors l'Esprit de Dieu est là, nous expérimentons sa présence. Ceci est très, très important. Amen. Très important. Alors le jour où tu ne ressens pas sa présence, qu'est-ce que tu dois faire? Commence à ouvrir ta bouche et loue le Seigneur. Ouvre ta bouche et il la remplira. Ouvre ta bouche. Que tu le sentes ou pas, que tu aies envie ou pas, ouvre ta bouche et il la remplira. Alléluia! Celui qui est chrétien, alléluia, celui qui sait louer son Dieu, glorifier son Dieu, il expérimentera continuellement la présence de Dieu dans sa vie. Amen. La présence de Dieu. Un chrétien, alléluia. C'est un mot extraordinaire. Louer l'Éternel. Alléluia. Je vous assure, le chrétien qui loue l'Éternel, l'ennemi ne peut pas tenir dans la présence de ce chrétien. L'ennemi fait une dépression dans votre présence. L'ennemi ne peut pas tenir, il a mal à la tête dans votre présence. Il dit, avec celui-là, j'ai toujours mal à la tête. Quand il commence à dire alléluia et gloire à Dieu, j'ai mal à la tête. La louange, c'est quelque chose qui rend le diable allergique. Le diable est allergique à la louange. Il ne peut pas tenir. Il a mal à la tête. Il ne supporte pas la louange de son peuple, du peuple du Seigneur. Amen. Il ne supporte pas cela. C'est pourquoi nous devons faire justement les choses que le diable ne veut pas qu'on fasse. Vous savez, s'il faut avoir un esprit de contradiction, c'est à l'égard du diable qu'il faut l'avoir. Il y en a qui ont un esprit de contradiction à l'égard de leur semblable, de leur frère ou de leur sœur, ou de leur mari même, ou de leur femme. Il y en a qui ont un esprit de contradiction. On veut toujours dire le contraire. Si on doit avoir un esprit de contradiction, c'est à l'égard du diable. Ce que le diable ne veut pas, il faut justement le faire. Amen. Un chrétien, alléluia. Quel mot, quelle puissance. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a quelque chose. Mes amis, c'est un mot tout simple, mais quelle puissance! Il y a de la dynamite! C'est pourquoi n'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur, à l'église, ou dans la rue, partout où vous êtes, au travail, à la maison, à la cuisine, n'ayons pas peur! N'ayons pas peur d'exprimer cela! Nous purifions l'atmosphère! Il y a une puissance dans ce mot-là! Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Et vous savez, quand on le fait de tout son cœur, bien souvent, on se sent un peu, comment dirais-je, contracté et autres, on n'a pas envie de le faire, mais je vous assure, quelques bons alléluia, vous êtes tout de suite débloqués. Amen. Que si vous avez le sentiment d'être bloqué une fois spirituellement, je vous assure, allez dans les champs si vous voulez, allez dans les champs, prenez votre voiture et allez dans un champ et criez là quelques fois alléluia de tout votre cœur, vous allez voir que vous allez complètement débloquer. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur de le dire, c'est extraordinaire. Un deuxième mot miraculeux. C'est le mot Amen. Amen. Je l'ai dit aussi, nous devons être aussi des chrétiens. Amen. Amen. Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors il y a là le côté d'obéissance au Seigneur. Nous devons être prêts à suivre le Seigneur là où il le veut, comme il le veut, même si cela ne nous plaît pas. Luc 22, 42, il est dit, Jésus a dit à son père, si tu voulais que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. C'est cela le chrétien Amen. Jésus était l'Amen. Il est l'Amen aussi lui-même. Il était là pour accomplir la volonté de son père. Quel que soit le chemin, l'épreuve, les difficultés, Jésus a été jusqu'au bout, n'est-ce pas vrai? Il nous a donné cet exemple et nous devons être ces chrétiens. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est même très fort, c'est il en sera ainsi. Ou alors en vérité, il y a tout cela dans le mot Amen. Ce mot-là est un mot extraordinaire, un mot très puissant aussi. En vérité, à vérité, il en sera ainsi. Quand Jésus dit, en vérité, combien de fois, je te le dis, il faut que tu naisses de nouveau. Il souligne par là des vérités très importantes. Et le chrétien Amen, c'est celui qui dit, Seigneur, je veux me soumettre à toi, coûte que coûte. J'irai jusqu'au bout. Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Lorsqu'un chrétien prononce cela de tout son cœur, ce chrétien-là n'est plus le même. Ce chrétien-là est utilisé par le Seigneur. Qui le Seigneur utilise? Le Seigneur veut utiliser n'importe qui, n'est-ce pas vrai? Le Seigneur veut utiliser n'importe qui. Mais pourquoi souvent le Seigneur ne peut pas utiliser n'importe qui? Parce qu'il manque cet Amen. À un moment donné, et moi-même pendant longtemps, après ma conversion, j'ai tergiversé un petit peu. Au début, bon, il y a eu ce don total de ma vie au Seigneur, mais après, j'avais comme repris ma vie. J'étais un peu avec le Seigneur et avec le monde. Et il y avait là un mélange en moi. Et tant que j'étais dans cet esprit-là, je tournais en rond spirituellement, je n'avançais plus. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait, je voulais le servir, mais tout était fermé. Jusqu'au jour où, en me plaçant devant le Seigneur, il m'a montré que mon cœur n'était pas entièrement à lui. Je n'avais pas dit « Amen, Seigneur, maintenant je veux faire ta volonté comme elle veut, où tu veux, quand tu veux. Je ne veux plus me chercher à me sauver moi-même, je me donne entièrement à toi. » Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai dit cet « Amen, Seigneur, maintenant je mets ma vie sur l'autel. » Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Là alors, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Ma vie a commencé à prendre une nouvelle dimension. Dieu peut utiliser le plus petit d'entre nous, le plus faible d'entre nous, le plus incapable d'entre nous. Dieu est capable de l'utiliser. Mais il ne peut pas utiliser celui qui ne dit pas « Amen » du fond de son cœur. Le plus faible, s'il dit « Amen », Seigneur, ta volonté soit faite, Dieu l'utilisera. Le plus incapable, s'il dit Amen, Seigneur, je suis rien, je suis incapable, je ne peux pas faire grand-chose. Mais Amen, Seigneur, ma vie est entre tes mains, Dieu utilisera cette personne. Tandis que l'autre qui a beaucoup de capacités, tandis que l'autre qui a beaucoup de dons, tandis que l'autre qui a beaucoup de sagesse ou d'intelligence, mais qui ne dit pas Amen, vous le voyez, qui tourne en rond et qui n'aboutit nulle part. Un chrétien, Amen. Quelle puissance il y a dans ce mot. Amen. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Cela coûte toute notre vie. Mais si nous donnons tout au Seigneur, n'oublions pas une chose, mes chers amis. Dieu, lui, en retour, nous donne aussi tout. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on expérimente vraiment toutes les bénédictions, les grâces qu'il y a d'être 100% au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien, amen. Ainsi soit-il. Que ta volonté soit faite. C'est l'esprit de serviteur. Vous n'êtes plus le maître de votre vie. Vous devenez le serviteur. Vous ne dites plus, Seigneur, fais comme je veux. Parce que vous savez, on a facilement tendance à imposer nos points de vue au Seigneur. Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, si tu ne fais pas comme ça, je t'ai demandé de faire ceci, je t'ai demandé de faire cela. Et si tu ne le fais pas, Seigneur, je ne sais pas, il va y avoir des histoires entre nous. Il va y avoir des histoires, je ne sais pas. D'abord, pour commencer, je prierai déjà un peu moins, pour te faire la tête un petit peu. Et il y a des choses qui vont changer. Pourquoi ? Parce que les choses ne vont pas comme on veut. Mais le Seigneur veut nous apprendre à réaliser qu'il est lui le maître et nous les serviteurs volontaires et d'amour pour lui. Amen. Ce n'est pas nous qui commandons, c'est lui qui commande. Et tant qu'on veut tenir les rênes de notre vie nous-mêmes, alors nous tournons en rond et nous n'avançons nulle part. Mais mes amis, écoutez-moi bien, en peu de temps, Dieu peut faire beaucoup dans une vie qui est entièrement livrée. Amen. Entièrement livré, un chrétien, amen. Oh, c'est un chrétien qui réjouit le cœur de Dieu. Pas seulement quand tout va bien, mais quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Je m'en rappelle encore lorsque, la première fois que je suis allé en Afrique, je n'étais pas marié encore à ce moment-là, et la mission qui m'envoyait, était là, il nous a envoyé plusieurs missionnaires. Et comme c'était plus ou moins une aventure, on devait partir pour 3 mois, faire toute une tournée en Afrique. Et c'était pour moi quelque chose de nouveau. Et il y avait un combat. Et je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et il n'y avait pas cette paix en moi jusqu'au jour où j'ai abdiqué devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux y aller. Il y a des dangers partout. Là où nous irons, il y aura des dangers. Mais à un moment donné, j'ai dû dire, Seigneur, je veux te dire une chose. Jusqu'à présent, je résistais en moi-même, je voulais sauver ma vie. Mais maintenant, je veux aller en Afrique. Ce que tu me demandes, je l'accepte. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne comme cela, confortable. Si tu me demandes d'aller en Afrique, je veux y aller. Et même si je ne devais jamais rentrer d'Afrique, cela n'a pas d'importance. À un moment donné, j'ai dû faire cette prière, Seigneur, j'irai là où tu voudras. Et s'il fallait mourir en Afrique, eh bien, j'accepte de donner ma vie pour toi. Et j'étais prêt, et je suis parti dans cet esprit-là, Seigneur, je m'en vais. Même si je ne devais plus jamais revenir, peu importe. le don a été total. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu dans mon cœur une telle libération, une telle joie, que désormais, ma vie ne m'appartenait plus. Et alors, le Seigneur a merveilleusement tout conduit. Il m'a ramené ici. Et il n'a pas voulu, bien sûr, me prendre, parce qu'il a un travail pour moi et pour chacun d'entre nous. Mais ce qu'il attendait de moi, c'est d'être ce chrétien. Amen. Jusqu'au bout. Sans condition. Seigneur, je veux faire ta volonté. Par-dessus tout, malgré tout, je veux faire ta volonté. Rien ne m'arrêtera. Voilà un mot extraordinaire qui peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Qui peut changer ta vie. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin maintenant. Un autre mot, tout simple, que l'on prononce souvent, mais on ne réalise pas toujours la portée. Mais qu'on ne prononce aussi pas trop souvent, certains mots, on ne les prononce pas trop souvent, mais il faudrait les prononcer toujours plus. Et c'est ce qu'on voudrait souvent, surtout apprendre à nos enfants. Un troisième mot important, c'est le mot merci. Savoir dire merci. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez que faire dire merci à un enfant, ça ne coule pas naturellement, n'est-ce pas vrai? Quand vous donnez quelque chose ou on leur donne quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. Ils oublient toujours de dire merci, n'est-ce pas vrai? On leur donne quelque chose et on attend. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. On donne quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. On est obligé de rappeler la chose comme si c'était un mot difficile à dire. Et pourtant, dans ce mot merci, il y a là quelque chose de puissant aussi, n'est-ce pas vrai? Un cœur qui sait être reconnaissant au Seigneur. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, il est dit que nous devons être reconnaissants, soyez reconnaissants. Et dans le mot grec, il est dit, apprenez à être reconnaissant, montrez de la reconnaissance, pratiquez la reconnaissance. Nous, les parents, nous voulons que nos enfants sachent dire merci, n'est-ce pas vrai? Parce qu'un enfant qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas être reconnaissant, c'est un enfant qui sera ingrat et qui sera très malheureux dans ce monde, n'est-ce pas vrai? Très malheureux. Un enfant qui ne sait pas dire merci pour le peu qu'on lui donne sera toujours insatisfait. Vous avez beau lui donner n'importe quoi, il sera toujours insatisfait. Mais si on lui a appris à être reconnaissant pour la plus petite chose, quelle bénédiction pour cet enfant. La moindre chose suscite en lui un esprit de reconnaissance. Combien cela réjouit le cœur des parents, n'est-ce pas vrai? Pour la moindre chose. Est-ce que votre cœur n'est pas content quand votre enfant vous dit merci? Pour la moindre petite chose. Merci papa, merci maman. Quelle joie en vous, n'est-ce pas vrai? Et c'est ce que Dieu voudrait susciter en nous, cet esprit de reconnaissance. En toutes circonstances, merci. Un des péchés dans ce monde, c'est l'ingratitude et les murmures, n'est-ce pas vrai? L'ingratitude, c'est quelque chose de terrible. Et si nous ne faisons pas attention, nous tombons facilement dans ce panneau-là. Chacun d'entre nous et moi-même, nous pouvons tomber facilement dans ce péché de l'ingratitude. Dieu nous bénit de tant de façons et nous sommes ingrats. Nous devons donc apprendre à être reconnaissants au Seigneur. Amen. Merci. Apprendre à dire merci, quelles que soient les circonstances. Quelle puissance il y a. Je vous assure, le chrétien qui sait dire merci en toutes circonstances au Seigneur, et même à ses amis, quand on lui fait quelque chose, on lui donne quelque chose. Quelqu'un qui sait être reconnaissant. Un chrétien reconnaissant n'est jamais un chrétien rétrograde, ne l'oubliez jamais. Je n'ai jamais vu un chrétien rétrograde qui manque de reconnaissance. Celui qui est reconnaissant, il ne sera jamais rétrograde. Amen. Celui qui est reconnaissant ne sera jamais, jamais rétrograde. Un jour, on parlait d'un fameux commentateur biblique, Matthew Henry, donc un homme qui a écrit pas mal de livres et dont les commentaires sont très appréciés par les prédicateurs. Voici ce qu'il dit le jour où il a été attaqué par des bandits et on lui a volé sa bourse. C'est, il y a des années de cela,
Alors, on lui a volé sa bourse, et voici comment il a réagi. C'était un chrétien merci, celui-là. C'était vraiment un chrétien merci. Et regardez comment il a réagi. Il a écrit, commentant ce passage, justement, de Colossiens 3:15, « Soyez reconnaissants ». Voici ce qu'il a, comment il a commenté la chose, en parlant de ce vol. Il a dit, voilà, « je suis reconnaissant pour 4 choses ». Quand il a été volé. Il a dit, voilà, je suis reconnaissant de ne pas avoir été volé plus tôt. C'était déjà un sujet de reconnaissance. Il aurait pu être volé plus tôt. Vous êtes d'accord? Alors déjà, merci Seigneur, je n'ai pas été volé plus tôt. Voilà quelque chose. Voyez. Deuxièmement, il dit, je suis reconnaissant de ce qui m'ont pris la bourse, mais pas la vie. Voilà encore un deuxième. Merci Seigneur, ils auraient pu me tuer ces bandits. Alors, un sujet de reconnaissance. Ils m'ont pris la bourse, mais pas la vie. Merci Seigneur. Troisièmement, je suis reconnaissant que, bien que ce fût ma fortune, ce n'était pas grand-chose. Finalement, c'était sa fortune, mais ce n'était pas grand-chose. Alors, il était reconnaissant parce que, finalement, ce n'était pas grand-chose. J'ai été volé, mais ce n'était pas grand-chose. Et quatrièmement, il dit, voilà, je suis reconnaissant d'avoir été volé, mais de ne pas avoir été le voleur. Encore là, on peut dire merci. Et je crois que là, un chrétien, merci comme cela, qui peut le décourager? Dites-moi un petit peu. Personne ne peut arrêter un chrétien merci. Quelles que soient les circonstances, il sait trouver quelque chose pour s'encourager et pour glorifier Dieu. Un jour, j'ai lu aussi l'exemple de ce John Bunyan, ce fameux prédicateur John Bunyan qui a écrit « Le voyage du pèlerin », un livre qui est répandu dans le monde entier. Le voyage du pèlerin. Et vous savez, quand on l'a mis en prison, là-bas en Angleterre, il était là dans une prison puante, vraiment, où tout est sale. C'était... Alors, il ne savait pas quoi faire. Et vous savez ce qu'il a fait dans cette prison? Il n'y avait qu'un pied de tabouret. Le seul tabouret qu'il y avait, il y avait un pied. Il a pris le pied de ce tabouret et il en a fait une flûte. Et avec cette flûte-là, il passait son temps à louer le Seigneur. Dans sa prison, il aurait pu murmurer en disant « Seigneur, ce n'est pas possible, je suis ton serviteur, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes plus, ce n'est pas possible. » Et lui, c'était un chrétien qui savait dire merci, quelles que soient les circonstances. Il n'y avait pas grand-chose à trouver pour dire merci. Il a pris le pied du tabouret. Et bien avec ça, on peut faire une flûte et on peut louer le Seigneur. Alléluia! Et c'est un homme qui certainement passait son temps à louer le Seigneur. Voilà pourquoi il a été inspiré aussi pour écrire ce livre, Le Voyage du Pèlerin. Savez-vous que celui qui sait dire merci reçoit des inspirations du Seigneur? Amen. Dieu vous donne des idées nouvelles lorsque vous savez être reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant, il ne sait rien du tout. Il oublie tout. Dieu ne peut pas lui parler. Mais celui qui sait être reconnaissant, pour le peu qu'il reçoit, eh bien, Dieu peut le bénir, Dieu peut lui donner d'être satisfait des moindres choses, des plus petites choses de la vie. Alléluia! Un chrétien qui sait dire merci, mais quelle puissance! Un chrétien qui sait dire merci, c'est un chrétien qui peut détruire tous les plans du diable dans sa vie. Un jour, un autre prédicateur, c'était Billy Bray, c'était un prédicateur américain qui était très connu. Aux USA, cet homme était ivrogne avant de se convertir, un ivrogne invétéré, un gars qui, c'était vraiment l'ivrogne. Le jour où il s'est converti, alors il a commencé à prêcher l'évangile, mais après sa conversion, il a eu beaucoup de difficultés. Il prêchait l'évangile, mais c'était très difficile, pour manger lui-même, tout ça, c'était pas si facile que ça. Et un jour, une chrétienne lui a donné quelques petites pommes de terre, quelques petites, voilà. Alors, il a dit merci, il a remercié cette chrétienne pour ses petites pommes de terre. Et alors qu'il s'apprêtait à manger ses petites pommes de terre, une petite voix lui a parlé, c'était le diable. Il dit, parce que lui, avant de manger, il a dit merci Seigneur pour ces petites pommes de terre, merci, c'est magnifique, merci Seigneur. Et la voix du diable lui a dit, comment peux-tu remercier le Seigneur pour des petites pommes de terre comme ça? Comment tu peux faire ça? Alors lui, il a tout de suite su que c'était le diable. Il lui a dit, « Satan, quand j'étais à ton service, je n'avais même pas des pommes de terre à manger. » Le Seigneur, lui, il m'en donne des petites, mais un jour, il m'en donnera des grosses. Mais avec toi, je n'avais même pas de pommes de terre à manger. Il était reconnaissant pour le peu qu'il recevait. Voyez-vous, quelqu'un qui est reconnaissant, il reçoit des inspirations, il reçoit une parole de sagesse, il reçoit une parole de connaissance pour résister aux ruses du diable. Amen. Mais un chrétien qui n'est pas reconnaissant, il tombe facilement dans les pièges du diable. Facilement, dans l'amour de l'argent, dans toutes sortes de choses. Il ne s'en rend pas compte. Mais un chrétien qui sait dire merci pour le peu qu'il a, c'est un chrétien qui verra la main de Dieu. Alléluia! Et qui paralysera ainsi l'action de l'ennemi dans sa vie. Un chrétien qui sait dire merci. Merci. Nous apprenons à nos enfants à dire merci, mais nous, est-ce que nous disons merci à notre Père Céleste? Est-ce que nous disons merci quand il y a des petites pommes de terre seulement? Les toutes petites pommes de terre? Et quand nous sommes dans une prison spirituelle où il n'y a qu'un tabouret avec un pied? Seigneur, c'est pas possible. Et comme cet autre-là, il a été volé, mais il était reconnaissant. Mes amis, celui qui est reconnaissant ne se laisse jamais arrêter. Amen. Reconnaissant ne se laissera jamais arrêter. Et Dieu viendra toujours au secours de son enfant qui est reconnaissant et qui sait dire merci. Amen. Merci, quel mot puissant. Quel mot. Quand votre enfant vous dit merci papa, merci maman, est-ce que votre cœur ne se réjouit pas? Il y a quelque chose en vous qui jubile, qui se réjouit. Mon enfant est reconnaissant. Et lorsque nous le sommes, à l'égard de notre Père Céleste, quand tout va bien, ou quand tout va mal, quand il y a des petites pommes de terre, quand il n'y a rien du tout, on a été volé, il manque tout. Merci Seigneur, j'ai encore la vie, j'ai encore la santé, j'ai encore ceci, j'ai encore ça. Merci Seigneur, alléluia. Cela réjouit le cœur de Dieu. Un chrétien qui sait dire merci, c'est un chrétien victorieux, mes amis. Un chrétien victorieux. N'oubliez pas Israël. Israël. Chaque fois qu'Israël était dans l'action de grâce et dans la louange, Israël était vainqueur. Mais dès qu'Israël commençait à murmurer et à oublier tous les bienfaits de l'Éternel, toutes les bénédictions de l'Éternel, tous les miracles de Dieu, tout ce que Dieu a fait pendant des années, quand Israël oubliait cela, Israël était dans la défaite, dans la déroute totale. Mais chaque fois qu'Israël était reconnaissant et savait dire merci, « Oh, Éternel, merci !» L'Éternel le bénissait, le conduisait jusqu'au port désiré. Alléluia ! C'est merveilleux, un chrétien qui sait dire merci. Quel mot puissant ! Un autre mot aussi, qui a une puissance extraordinaire, c'est le pardon. Pardon. Je te demande pardon. Quelle puissance extraordinaire il y a dans ce mot « je te demande pardon ». Amen. Quel Éphésiens chapitre 4 verset 32, il est dit « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 32. Voilà un autre mot qui doit être continuellement aussi en nous. Demander pardon ou pardonner lorsque l'occasion se présente, c'est là quelque chose que nous devons continuellement pratiquer, n'est-ce pas vrai? Et c'est là le mot pardon. Dans le mot pardon, il y a une puissance qui libère réellement. Il y a une libération dans le pardon. Et lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous devons apprendre à pardonner. Comme aux enfants, nous leur apprenons à pardonner. Nous aussi, nous devons apprendre cela. Et là, il y a quelque chose de puissant. Ce pardon, c'est avant tout une décision de notre volonté. Si nous comptons sur nos sentiments ou sur les circonstances favorable pour pardonner, jamais nous ne pardonnerons. Le pardon est avant tout une décision que nous prenons. Pardonnez-vous comme votre Père Céleste vous a pardonné. C'est une décision. Quand on vous a fait du mal, n'attendez pas d'avoir des bons sentiments pour pardonner. Pardonnez. Au nom de Jésus, vous prenez la décision. Et quand vous avez pardonné, vous regardez votre montre et vous dites tel jour à telle heure, c'est terminé. Je ne reviens plus là-dessus. Amen. Le pardon. Je pardonne. Je demande pardon. Quelle puissance! Et bien souvent, nous avons de la peine à sortir ces mots. N'est-ce pas vrai? Notre cœur humain, naturel, a de la peine à sortir ces mots. Et cependant, quelle puissance! Quelle puissance lorsqu'ils sortent de notre bouche. Amen! Je te pardonne. Quand le mari dit à sa femme, je te pardonne, ou je te demande pardon, quelle puissance! Quand l'épouse dit à son mari, je te demande pardon, ou je te pardonne, quelle puissance! Quelle puissance! Quand les parents disent aux enfants, je te pardonne mon enfant, tu es pardonné. Je ne te fais plus ce reproche. C'est terminé. L'enfant se sent libéré. Amen. Mais pourtant, vous le savez comme moi, c'est un mot difficile à dire. Mais il faut le dire, n'est-ce pas vrai? C'est un mot qui fait des miracles. Il y a une puissance dans ce mot-là. Amen. Et nous devons apprendre à pratiquer toutes ces choses. Il faut que ça devienne comme naturel en nous. Naturel. Il ne faut pas attendre des mois. Il y en a qui attendent des mois, des jours, des mois, des années pour demander pardon ou pour pardonner. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Et il y en a même qui n'arrivent même pas à pardonner. Mais le Seigneur, nous a donné un exemple, n'est-ce pas vrai? Il nous a pardonné, nous qui étions ennemis de Dieu. Et nous devons pardonner comme il nous a pardonné. Combien est grand le pardon de Dieu à ton égard, n'est-ce pas vrai? Rappelle-toi d'une chose, quand tu as de la peine à pardonner à quelqu'un, rappelle-toi d'une chose. Rappelle-toi combien le Seigneur Jésus, lui, a dû te pardonner. Rappelle-toi de cela. Et si tu te rappelles combien le Seigneur, lui, a t'a pardonné, alors tu pardonneras beaucoup plus facilement à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton ennemi. Tu pardonneras bien plus facilement, car tu réaliseras, « Oh, Seigneur, mais c'est rien du tout ce qu'il m'a fait, lui. C'est rien à côté de ce que je t'ai fait, moi, à toi. J'ai été ton ennemi. J'ai fait le mal à tes yeux. Ce que l'autre m'a fait, c'est rien du tout. C'est rien. Alors je pardonne, Seigneur. Je pardonne quand je comprends combien tu m'as pardonné. Oh, gloire à ton nom. Vous savez, il y a une puissance dans le pardon. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et mais là, c'est quelque chose qu'il faut continuellement renouveler et prendre des décisions dans ce domaine-là. Car le jour où nous cessons de pardonner, nous cessons de vivre spirituellement. Nous sommes bloqués spirituellement. Et il y a tant de vies chrétiennes qui végètent à cause de cela. Parce que le pardon aussi n'est pas clair et net. On dit « je pardonne, mais j'oublie pas », vous voyez, des trucs comme ça. Et puis alors après, on revient. Non. Dans le vrai pardon, d'ailleurs, il n'y a pas... Quand on pardonne de tout son cœur, cela ne veut pas dire qu'on ne se rappellera plus de la chose. Parce que bien souvent, certains pensent que « ah, mais je me rappelle toujours de la chose ». Ça vient toujours. Mais ce n'est pas parce que la chose revient que tu n'as pas pardonné. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la chose revienne. Parce que si tu oubliais tout, dans ce sens-là, alors tu commenceras à faire les mêmes bêtises 150 fois. Dieu permet que tu t'en rappelles pour que tu ne recommences pas les mêmes fautes. Mais bien sûr, il y a une différence avec l'autre qui dit « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Alors ça, c'est autre chose. C'est quelqu'un donc qui finalement ne veut pas pardonner. Alors ça, c'est autre chose. Mais il ne faut pas s'inquiéter du fait que si la chose nous revient, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas pardonné. Dieu permet parfois qu'on s'en rappelle, mais la douleur n'est plus là, n'est-ce pas vrai? On s'en rappelle, mais comme on a pris la décision de pardonner, ce souvenir ne nous fait plus mal. Amen. Au contraire, ce souvenir nous rappelle que ça y est, le problème est résolu. Ça ne nous fait plus mal intérieurement parce qu'on a pris la décision de pardonner. Alléluia. C'est très important, très important. Et c'est ainsi que nous pourrons grandir véritablement, spirituellement. Cinquièmement, un autre mot qu'on apprend à nos enfants et que notre Père Céleste veut aussi nous apprendre. Un autre mot, ou une expression si vous voulez, qui fait des miracles. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on dit, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on dit, s'il te plaît? Les enfants aussi facilement demandent sans demander s'il te plaît. Et là, Romains 12, 10, il est dit « par honneur usé de prévenance réciproque ». Il y a là quelque chose que le Seigneur voudrait nous apprendre. Comme nous voulons l'apprendre à nos enfants, c'est ce respect, cette politesse, ce respect, cette dignité. Le Seigneur veut nous apprendre cela parce que nous faisons tous partie d'une même famille et entre nous, il doit y avoir ce respect divin. Amen. Ce respect. Par respect, par honneur, usé de prévenance réciproque. Il y a là quelque chose de puissant aussi, lorsqu'il y a le respect mutuel. N'est-ce pas vrai, mes amis? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est là quelque chose aussi qui touche les cœurs, qui ouvre beaucoup de portes. Quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui sait respecter, Dieu lui ouvre beaucoup de portes, n'est-ce pas vrai? C'est là aussi un point important, s'il te plaît. Un petit mot, une petite expression. Mais bien souvent, nous l'oublions. Et si nous l'oublions, nous sommes malheureux nous-mêmes. Et nous n'avançons pas. S'il te plaît. Alléluia. Quelle expression miraculeuse. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une autre expression maintenant, miracle encore. Ah, cette expression aussi fait des miracles. Je t'aime. Une autre expression. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je t'aime, mon frère, ma sœur, de tout mon cœur. Je t'aime, mon mari, ma femme, je t'aime. Il y a là une expression que nous devons dire. L'amour doit être exprimé. Bien souvent, ce qu'il y a en nous, nous ne l'exprimons pas assez. Et Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voyez-vous ? Il y a là quelque chose qui doit être manifesté. Bien souvent, on dit « Ah, mais l'amour est là dans mon cœur, mais moi, je ne suis pas le genre sentimental, voyez-vous. Moi, je n'exprime pas mes sentiments. » C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que dans d'autres domaines, nous exprimons bien nos sentiments. Dans d'autres domaines où il ne le faut pas peut-être, nous l'exprimons, nous les exprimons, nos sentiments. Et quand il le faudrait, nous ne les exprimons pas. Ces sentiments, c'est une erreur. Quand vous dites à votre mari, à votre femme que vous l'aimez, quelle puissance ! Amen ! Vous pensez que c'est superflu ? Quand vous le dites, en tout cas celui qui entend cette parole, votre mari, votre épouse ou vos enfants ne pensent pas à cette parole superflue, au contraire. Quand le mari dit à sa femme « je t'aime », mais l'épouse resterait là pendant des années, des heures et des mois, écoutez. Elle en a besoin. Elle a besoin de cela. Il a dit « mari, aimez vos femmes ». Le mari doit prendre le temps de dire aussi son amour à sa femme, de le dire, de le dire. Je sais, l'homme en général, il ne calcule pas comme ça. Il dit « mais c'est inutile ». Je l'ai dit une fois, je l'ai dit au mariage, ça suffit. Je dis au mariage, et puis s'il y a quelque chose qui change, ben je le redirai. Mais ça suffit quand même. Le mari, vous voyez, il n'est pas. Il pense que c'est inutile. Mais pour l'épouse, c'est pas superflu. Au contraire. Au contraire, quand l'épouse n'entend plus ses déclarations d'amour du mari, elle se dit, est-ce qu'il m'aime encore ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Et elle fera tout pour décrocher de son mari ces déclarations très importantes pour elle. C'est peut-être pas important pour toi, mais c'est important pour elle. Elle a besoin de cela pour se sentir en sécurité, pour savoir qu'elle est aimée. C'est important. La vie de l'épouse tourne autour de ce sentiment d'amour. Si elle ne se sent pas aimée, tout tombe à l'eau. Tout ce que le mari peut faire à côté, c'est presque insignifiant. Le mari dit « Ah oui, mais je t'ai fait ceci, mais je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. » Ah, mais pour elle, tant que vous ne lui dites pas, tant que vous ne le manifestez pas, tout ce qu'on peut faire à côté peut être insignifiant. Alors vous dites, mais à ce point-là, quand même, eh oui, c'est ça. D'où l'importance d'exprimer son amour. Amen. Alléluia. Dis ton amour à ton épouse. Dis ton amour à tes enfants. Dis-le. Et entre nous aussi, il est bon aussi de savoir exprimer son affection. Amen. De savoir exprimer son affection. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est important. Quand quelqu'un vient, une personne nouvelle vient dans l'église, mes amis, qu'est-ce qui va la toucher le plus ? Écoutez-moi bien, ce n'est pas mon serment, ce n'est pas la prédication du pasteur, c'est l'amour qui se manifeste entre nous, n'est-ce pas vrai ? C'est important, parce que cet amour n'existe pas dans le monde, vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que le plaisir dans le monde, mais le véritable amour qui s'intéresse à l'autre, qui exprime l'autre, qui aime l'autre sans hypocrisie, que votre charité soit sans hypocrisie, il est dit. Un amour sincère, c'est quelque chose de percutant, c'est une puissance. Amen. Regarder son frère, sa sœur dans les yeux et lui dire « je t'aime sincèrement », c'est une puissance, je vous le dis. C'est une puissance. Vous touchez, vous pouvez toucher beaucoup de gens. Simplement par votre regard, par votre expression sincère. La sincérité dans l'amour, c'est une puissance, je vous assure. C'est quelque chose d'explosif. Mais il faut que ce soit sincère, n'est-ce pas vrai ? Et exprimé. Vous dites, mais c'est là. Non, mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si c'est dans le cœur, ça doit sortir de là du cœur. Si ça ne sort pas de la bouche, c'est que ce n'est pas dans le cœur. Vous dites, c'est dans le cœur et ça ne sort pas, c'est pas vrai. Si ça ne sort pas, c'est que ce n'est pas dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si c'est dans ton cœur, alors dis-le. Mais tu dis, oui, c'est quand même dans mon cœur. Bah, alors sors-le. Alors dis-le, exprime-le. Amen. Tes bien-aimés attendent peut-être cette parole d'amour, d'affection. Ils l'attendent. Renouvelle cela. Dis-le souvent. Tu seras étonné des miracles que cela peut produire. Mais il sait que je l'aime. Ou elle sait que je l'aime. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je t'aime. Amen. 1 Pierre 1, 22 nous dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voyez-vous, ardemment. Ardemment. Ça doit être un feu. L'amour est un feu. Amen. Il n'y a pas d'amour sans cette flamme. Quand on parle d'amour avec le Seigneur, c'est un feu ardent, total. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je t'aime. Un autre mot puissant, qui fait du bien, qui fait des miracles. Jésus l'a employé pour ses disciples. Et nous devons l'employer aussi entre nous. Et Dieu veut nous aider, avec nos enfants partout. C'est une expression, c'est bien. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, c'est bien. C'est bien, l'approbation. Nous approuver mutuellement. Nous approuver mutuellement. Il y en a qui ne savent pas faire cela. C'est bien. Quand quelqu'un a fait une tâche qui est bien, est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous dites que c'est bien? Ah, mais on attend toujours que l'autre le dise. Mais on peut attendre longtemps. C'est bien. Jésus l'a dit lui-même, Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. C'est bien. Nous avons besoin de cette approbation. C'est pas grand-chose. Mais vous savez, un frère, une sœur qui est là dans une église, et à la maison aussi, ça commence toujours à la maison. C'est bien. Le mari, la femme qui s'encourage mutuellement, ou les enfants, en disant « c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ». Un simple mot, « c'est bien mon enfant, c'est bien ». Il ne faut pas seulement corriger l'enfant, il faut aussi savoir l'approuver. Et c'est très important. C'est bien. C'est bien. Ton Père Céleste t'encourage aussi et te dira un jour, et il te dit encore maintenant, « c'est bien mon enfant, tu as été fidèle en peu de choses ». Quelle consolation lorsque nous entendons cette parole, « c'est bien ». Amen. C'est bien. C'est bien. Vous dites-le aussi. Il y en a qui ne disent jamais de telles paroles. C'est un manquement. C'est un manquement. On attend toujours que les autres le disent. N'attendez pas que les autres vous le disent. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, dans la maison, ou dans l'église, ou même à l'extérieur, même avec les païens, vous pouvez leur dire, c'est bien ce que vous avez fait. Vous sortez de vous-même. C'est des paroles qui peuvent faire des miracles. Des miracles, c'est bien. Pas grand-chose, mais c'est une puissance. Amen. Pour terminer, je termine, un huitième mot, une huitième expression qui fait aussi des miracles. Bon courage, et sois courageux, sois courageux. Jésus lui-même a dit, Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Actes 23, verset 11, c'est le Seigneur qui dit à Paul, quand il était devant le souverain sacrificateur persécuté par les Juifs. À un moment donné, on voulait tous lui sauter dessus pour le mettre en pièces. Il est dit qu'on est venu le chercher et qu'on l'a échappé de tout juste, de la main des Juifs qui voulaient le lapider. Et là, pendant cette nuit, Paul était certainement découragé. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? On veut me lapider ici, je veux te rendre témoignage, et puis on me lapide, c'est pas possible. Et là, le Seigneur lui est apparu en songe la nuit et lui a dit, Paul, prends courage. Prends courage, acte 23, 11. Prends courage. Comme tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Prends courage. Prends courage. Voyez-vous que c'est important de prendre courage, de dire à l'un, à l'autre, d'être quelqu'un qui encourage les autres. Amen. Prends courage. Il y en a qui sont spécialisés pour décourager les autres. Toujours une parole négative, toujours une parole de découragement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas retenir le positif. Toujours. C'est malheureux. Mais prends courage. Qu'est-ce que cela peut faire du bien? N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et Jésus a dit même à un malade, au paralytique, Matthieu 29, verset 2, « Mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Prends courage. » Matthieu 9, verset 2, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui savent encourager les autres. Qui savent encourager les autres. C'est bien, ne t'inquiète pas, ça ira mieux. Aujourd'hui, tu vois pas très bien, il fait sombre, l'épreuve est là. Mais le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Ne te décourage point. Alléluia. Quelle puissance dans ces paroles. Quelle puissance! Vous pouvez faire un bien énorme en encourageant l'un et l'autre. Et si un jour vous discernez un frère, une sœur, quelqu'un qui est découragé, sachez, une tape, un coup sur l'épaule comme cela, et lui dire, mon ami, ne te décourage pas, le Seigneur a un plan pour toi, Dieu veut te bénir. Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle exhortation! Quel miracle il y a dans ces mots-là. Amen. Ainsi que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ces mots, miracles, pour la gloire de son nom. Amen.